Nous allons donc passer à la deuxième session de cette journée en écoutant Christian Jambé. Christian Jambé qui ne se présente pas, enfin je le présente quand même en deux mots. Il est à la fois philosophe et islamologue. Son œuvre est énorme, on ne peut pas la décrire ici. Je me contenterai simplement de mentionner les trois derniers ouvrages qui concernent précisément l'œuvre de Molla Sadra dont il va être question à présent. Il y a eu « Le gouvernement divin, Islam et conception politique du monde » en 2016, « La fin de toute chose » en 2017 et « Le philosophe et son guide » en 2021, parmi beaucoup d'autres écrits. Et il se trouve précisément donc... Christian continue de travailler sur Molla Sadra et précisément sur un sujet qui touche à la question d'aujourd'hui, à savoir amour humain, amour divin. Christian, merci beaucoup.
Merci Pierre et merci à vous tous. Le sujet peut vous sembler un peu obscur, providence et amour, et je présenterai donc les raisons pour lesquelles ces deux concepts sont ici corrélés. D'abord, en effet, rappelez que le travail d'exposition que je vous présenterai porte sur l'œuvre d'un des plus grands philosophes. Il n'y a pas de gradation à établir ici, mais enfin, en tout cas, il paraît comme un des philosophes majeurs de l'époque safavide, c'est-à-dire de la domination de la dynastie safavide en Perse, au XVIIe siècle de notre ère, et qu'il est donc comme un moment conclusif de l'histoire de la philosophie en islam, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas eu des philosophes après Molla Sadra, mais que peu ou prou, hostile à son système de pensée, ou au contraire se présentant comme disciple de sa pensée, chacun a été invité à se prononcer sur ses doctrines et qu'il a joué, à peu près jusqu'à nos jours, le rôle d'un maître décisif en matière de métaphysique dans le monde iranien et au-delà du monde iranien, puisque son œuvre étant massivement, majoritairement rédigée en arabe, elle a bien entendu intéressé le public de langue arabe. C'est un philosophe chiite, mais quand on a dit cela, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'un philosophe chiite ? Bon, ce matin, Mathieu Terrier vous a présenté plusieurs figures, non seulement de mystiques, mais d'auteurs qui peuvent passer, peut-être à tort, pour philosophes. Je pense en particulier à Saïd Haïdar Hamouli, mais quelle que soit la définition qu'on se donne de la philosophie, encore faut-il que ces penseurs entrent dans une des catégories envisagées par l'histoire de la philosophie en islam. Molla Sadra, incontestablement, figure dans le tableau général de la philosophie islamique au titre à la fois de son œuvre, disons, utilisant toutes les armes de la raison et de l'intellect démonstratif, mais aussi comme commentateur du Coran, commentateur des traditions des imams et auteur de plusieurs traités mystiques ou de saveurs mystiques, comme on voudra, qui présente sa doctrine la plus profonde et peut-être la plus cachée. Alors, les sources d'inspiration de Molla Sadra sont nombreuses, et si d'ailleurs je m'y intéresse, comme avant moi bien sûr Henri Corbin et d'autres, bien d'autres, plusieurs autres en tout cas, quelle que soit la diversité de ces sources, ce qui est important, c'est qu'elles entrent dans une synthèse qui n'est pas un simple syncrétisme, et que Molla Sadra, du coup, apparaît comme un moment conclusif où la pensée héritée de la falsafa, l'héritage du soufisme spéculatif et l'héritage aussi de la philosophie illuminative de Sohrawardi, ainsi que d'autres, convergent vers une même fin systématique. Dans le présent contexte, celui de la doctrine de l'amour, nous verrons d'ailleurs que ce qu'il dit, ce que je vais essayer de vous présenter de ces spéculations, est essentiellement nourri de l'enseignement d'Avicenne, d'une part, et à partir d'Avicenne, évidemment, on peut remonter jusqu'à Aristote et jusqu'aux auteurs néoplatoniciens, et d'autre part, nourri de la pensée d'Ibn Arabi. Les deux, d'ailleurs, auteurs, Avicenne et Ibn Arabi, sont cités expressément, et donc il n'y a aucune surprise, si ce n'est de voir être rendus compatibles l'un avec l'autre deux penseurs aussi distincts, aussi différents, et aussi éloignés l'un de l'autre que possible, tels que Avicenne, Ibn Sina, donc, et Ibn Arabi. Alors, j'ai été frappé du fait que, bien qu'il soit souvent question de l'amour dans l'œuvre de Mullah Sadra, la doctrine qu'il en propose, et au fond ce qu'on peut appeler sa métaphysique de l'amour, est présentée, exposée de manière assez développée dans un traité consacré à la Providence. Ce traité figure dans le grand œuvre de Mullah Sadra, dans son œuvre majeure, les quatre voyages de l'intellect, les Asfar, les quatre voyages de l'intellect, qui ont un ordre intérieur, bien sûr, et dans cet ordre, nous y trouvons toute une partie qui est le troisième voyage, troisième de ces quatre voyages, et cette partie peut être appelée la partie théologique de l'ouvrage. Et dans cette partie théologique, Mullah Sadra traite successivement de l'essence de Dieu, de ses attributs et de ses actes. Ce schéma n'a rien d'exceptionnel, d'étonnant, mais il correspond à la définition même que Mullah Sadra donne de celui qu'on appelle l'Aref, le gnostique, le vrai savant, le sage. Ce sage ou ce vrai savant se définit par le fait précisément d'être le vrai théologien, à la différence des théologiens du Kalam, et en particulier du Kalam sunnite, qui, eux, pratiquent un simple art de la dispute et qui n'arrive, selon Mullah Sadra, à rien de probant. Dans cette théologie de l'essence des attributs et des actes divins, évidemment, notre auteur rencontre la notion de providence. Il le fait de manière logique, car il tient la providence pour un des attributs divins. Le statut de la providence a cependant une position étrange et peut-être difficile à repérer. Certes, c'est un attribut divin, on va voir comment et pourquoi, mais la providence est aussi un des niveaux ou degrés d'un autre attribut divin qui est la science. Tout à la fois, la providence est le degré supérieur de la science que Dieu a de lui-même et des choses étrangères à lui, exactement autres que lui, et la providence est en soi un attribut divin. Pour rendre ceci cohérent, il faut rappeler que pour Mullah Sadra, les attributs divins n'ont pas d'existence, qui leur soit propre, bien qu'ils aient des définitions et des significations qui leur sont propres. La signification de la puissance n'est pas la signification de la science, la signification de la volonté n'est pas la signification de l'ouïe ou de la vue, et il est bien évident qu'il y a une pluralité de significations. Les attributs divins caractérisent l'essence de Dieu sous un certain aspect et une certaine signification. Mais en eux-mêmes, ils n'ont pas d'existence, ils ont tous une seule et même existence, qui est l'être de Dieu. Donc, ils expriment, d'un certain point de vue, l'existence une, l'être un et unique, qui est aussi l'être universel, et que l'on appelle par ailleurs l'essence divine. Il n'y a donc pas de distinction entre l'essence et les attributs, si ce n'est que les attributs expriment l'infinie intensité de l'être de l'essence de Dieu. La providence se trouve ainsi à la fois à la tête, si j'ose dire, de l'attribut de la science divine et en renfort de l'ensemble des autres attributs divins. Et l'on s'aperçoit, quand on étudie toute la série de ces attributs, qu'en vérité, la providence joue un rôle clé dans le système de Mulla Sadra, qui revient ici sur des données qui lui sont enseignées depuis Avicenne, et depuis Nasiruddin Tusi, et depuis encore d'autres maillons historiques entre Nasir Tusi et lui-même, en particulier son maître Mir Damad. Il y revient, et il revient à la conception providentialiste de l'être pour une raison essentielle, c'est que la providence seule permet de concevoir l'unité fondamentale entre connaissance, puissance et volonté en Dieu. Si l'on supprime la notion de providence, ces trois attributs divins sont inconcevables, leur unité est inconcevable, et pire encore, la souveraineté divine, notion centrale de l'islam, est inconcevable. Or, toute la métaphysique et la théologie de Mulla Sadra, comme celle d'ailleurs de tous les penseurs de l'islam, qui sont des métaphysiciens ou des théologiens, vise à établir la souveraineté de Dieu. Il faut bien voir que les questions attenantes à l'existence de Dieu sont très rapidement traitées. Vous êtes vous-même, si vous êtes curieux d'y retourner, de regarder voir, vous serez étonné de la façon dont les preuves de l'existence de Dieu tiennent peu de place, par exemple chez un Farabi ou un Avicenne, et même chez quelqu'un d'aussi tatillon que Mulla Sadra. Que Dieu existe ne présente aucune difficulté, mais que Dieu soit le Seigneur des cieux et de la terre et qu'il soit le souverain absolu et unique, voilà ce qui fait la spécificité de la religion vraie et de la connaissance métaphysique qui l'accompagne. Autrement dit, l'islam ne consiste pas à admettre et à même à professer l'existence de Dieu, que tout révèle et que seuls des êtres immondes et sataniques pourraient refuser. Non, ce qui est difficile de comprendre rationnellement, c'est ce que l'enseignement du livre propose et oblige de croire, Dieu est le souverain unique. Et il, sa grandeur, il la possède pour lui et ne la délègue à personne, si ce n'est avec sa permission. Or, pour que cette souveraineté soit établie, il convient de démontrer que la création tout entière est celle de l'ordre du bien. Cette notion de l'ordre du bien, que l'on rencontre déjà bien sûr chez Avicenne, ne diffère pas beaucoup de l'ordre de l'être. L'idée est que émane du principe divin qui est à la fois un principe de hiérarchie et de gouvernement définissant toute chose, un ordre de l'être qui est immuable et qui est foncièrement rationnel. Cet ordre de l'être est, comme je dis, hiérarchisé. L'islam, comme le remarquait Nietzsche, et cette religion animant toute une immense civilisation et culture où l'on n'attribue aucune espèce d'importance et de validité à l'égalité des droits. Il n'y a pas d'égalité des droits en islam, ni entre Dieu et les créatures, ni entre les créatures elles-mêmes. C'est un monde hiérarchisé, profondément hiérarchisé et ordonné. Et dans ce monde de la hiérarchie et de l'ordre, la providence n'est rien d'autre que l'essence de Dieu. Le mot Ainaya traduit le grec pronoia en deux sens conjoints. D'une part, la providence divine étant pronoia est une conception, une science pré-noétique de l'existence et de l'essence de toute chose, et donc par sa providence, Dieu prévoit, voit préalablement même à tout l'ordre intelligible de l'univers, toute chose sous l'aspect de sa propre éternité à lui, et d'autre part, bien sûr, cette providence exprime l'ordre qui émane de Dieu, désigne à la fois la bienveillance, la sollicitude de Dieu, un Dieu foncièrement bon, de sorte que la providence, Ainaya, soit le synonyme de la grâce, Jud, de la miséricorde, Rahma, et de la sagesse, El Hikma. Cette providence, à la fois prévision, science unitive et prénoétique, et d'autre part générosité foncière de Dieu, s'exprime dans le flux générateur de l'émanation de tous les existants hiérarchisés à partir de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que la pensée de l'amour va être élaborée par notre auteur, par Mollah Sadra. En effet, et je citerai d'abord un premier exemple, l'amour n'est pas d'abord une passion. L'amour est le flux générateur lui-même, et c'est ce que je vais essayer de démontrer par exemple et par démonstrations successives tirées de Mollah Sadra. L'amour n'est pas autre chose que le mouvement même de l'être. Toute existence est amour dans la mesure où toute existence est effusion et désir de perfection. Le meilleur exemple que l'on trouve chez Mollah Sadra, qui emprunte bien entendu cela à la cosmologie d'Avicenne, c'est la liturgie cosmique. Le cosmos est le lieu liturgique où s'exerce un rituel céleste. Les mouvements des sphères célestes sont, on le sait, des mouvements circulaires uniformes. Notre philosophe est toujours dans l'univers légué par le schème avicénien du cosmos, c'est-à-dire un univers géocentrique, et autour de la Terre, qui est le lieu le plus bas, bien sûr, des sphères entraînent des corps célestes, c'est-à-dire des astres qui circulent selon un mouvement circulaire uniforme, qui lui-même est le résultat d'un calcul mathématique fait sur la base d'une réduction du mouvement apparent à un mouvement réel. Le mouvement apparent et désordonné, le mouvement des corps célestes réels, mathématiques, est quant à lui ordonné. Ces sphères célestes sont au nombre de sept pour ce qui est des astres errants, on y ajoute le ciel des astres fixes, et enfin le neuvième ciel qui entraîne le tout dans sa rotation, et vous avez là le monde fini, le cosmos fini, qui est précisément le lieu de cette liturgie cosmique. Or, les mouvements des sphères célestes, certes, s'expliquent par le désir que les âmes des astres, des âmes célestes, ont pour les intelligences ou intellects immobiles et désirs qui entraînent ces âmes à instiller un certain mouvement aux corps qu'elles sont en charge. Ce schème intelligence âme céleste, corps céleste, qui a régné sur toute la cosmologie pré-galiléenne ou pré-keplérienne, aussi bien en Occident qu'en Orient, va de soi, bien sûr, pour un homme comme Bolasadra. Mais il approfondit cette conception des mouvements cosmiques en démontrant que tous ces mouvements sont un culte d'adoration de Dieu, un culte, je cite, « qu'inquiète le désir tendu vers Dieu ». Et donc, le véritable moteur des mouvements des astres et des sphères qui les entraînent n'est pas le simple désir de chaque âme céleste pour l'intelligence qui lui correspond, pour l'intellect qui lui correspond, non, c'est un désir tendu vers le principe divin et, ajoute-t-il, une émotion extatique provoquée par l'amour. Donc l'ensemble du cosmos, hormis les subdivisions entre désirs particuliers de chaque sphère, est animé par cette émotion extatique. Chacune des personnes célestes, c'est-à-dire chacun des astres ou chacune des sphères, a un aimé, un intellect qui est aimé de cette personne et qui est son moteur. Bon, cela, c'est la dette que notre philosophe a envers Aristote et envers Avicenne. Mais cela n'épuise pas notre sujet, selon lui, car outre cette fonction physique, impulser le mouvement de la sphère, l'amour provoque le désir, et le désir a pour objet la conversion. L'âme de la sphère tourne sa face, dit-il, vers son guide, l'intellect, qui lui est propre, et elle ne se contente pas d'un mouvement physique, elle produit un mouvement de conversion spirituelle. Elle suit l'exemple de ce guide, et l'exemple de ce guide est procuré par l'intellect, le guide, c'est le désir de s'unir à l'essence divine. Et donc nous avons là quelque chose qui déborde vraiment, je crois, l'avicénisme au sens strict, et qui introduit un leitmotiv que nous allons rencontrer sans cesse. S'unir à l'essence divine est la finalité du tout, de l'univers, finalité sérieuse, finalité accessible et même finalité inéluctable. La fin de toute chose sera l'union à l'essence divine. Et la raison de ce processus, un amour produisant un tel désir, est la forme suprême de l'amour lui-même. L'univers est amoureux, de la beauté du Seigneur des mondes, écrit-il. De fait, le leitmotiv général du thème de la Providence, c'est moins le fait que Dieu soit le bien que le fait que Dieu est le beau. On est frappé, bien sûr, d'abord du fait que le vocabulaire arabe permet de glisser sans cesse de la notion du bien vers la notion du beau et réciproquement, mais par le fait que le perfectionnement providentiel et spécialement tout ce qui est objet de désir et d'amour, ce soit moins le bien au sens moral du terme que la beauté au sens esthétique du terme. Voilà pourquoi en une autre formule, pour définir cette liturgie cosmique, Mulla Sadra écrit que l'univers est pris dans la danse de l'être. L'être, Véron, est fluide et mobile, et il danse, une danse rituelle, autour de l'objet de son amour, qui est Dieu. La providence est donc cet ordre, cette joie, cette donation de perfection. Pourquoi elle est un amour, l'amour qui seul peut expliquer le mouvement substantiel de perfection de l'univers. Tout ce qui est imparfait tend à sa perfection. Tout ce qui est inférieur, écrit Mulla Sadra, tend à se conjoindre à ce qui lui est supérieur. La hiérarchie a donc un rôle moteur, une fonction dynamique. Ne pas, heureusement, dans ce modèle, n'y a-t-il pas d'égalité des droits et d'égalité des rangs, car un monde égalitaire est un monde mort, est un monde où il n'y a plus de mouvement, plus de désir, plus de perfectionnement possible. Des hommes, des femmes, des êtres égaux, et libres et égaux en droit, n'ont plus de vie. N'ont plus d'existence pour cet homme-là, pour notre philosophe. Chacun pensera ce qu'il voudra. Heureusement qu'il y a des inférieurs et des supérieurs, car c'est précisément ça qui permet le mouvement substantiel de perfectionnement. Vous allez voir ce que ça donne très concrètement. Cet ordre progressif et providentiel tendu vers l'être absolu commence par le degré le plus bas, la matière. La matière tend vers la forme. De même, un peu plus haut, l'âme rend parfaite la nature du corps. Donc le corps tend à se spiritualiser par sa forme de perfection, par l'entéléchie psychique, la perfection psychique qui est la sienne. À son tour, l'âme est rendue parfaite par l'intellect. L'intellect, dit Mulla Sadra, fait subsister l'âme, il l'éduque, il la purifie des malpropretés matérielles et corporelles, je cite toujours, il lui procure la connaissance et la sagesse en l'illuminant par la lumière de la gnose et de la guidance. Il la ressuscite en la sortant des tombes de l'oubli et la conduit vers le monde de la résurrection. Donc tout le schème que l'islam a configuré à partir de l'enseignement coranique, le schème d'une vie inférieure à laquelle se substitue une vie ultérieure, la vie dernière, qui est une vie supérieure, la vie après la mort, la vie après la résurrection, ce schème se traduit ici dans la langue de la métaphysique par un mouvement substantiel qui part de la matière pour aboutir à l'intellect et qui est un mouvement dynamique, bien sûr, et une dynamique qui est celle-là même dont la visée est eschatologique, la résurrection. Sortir du monde des tombes, qui est aussi le monde, bien sûr, de l'ignorance. Eh bien, c'est ce à quoi sert la doctrine de l'amour, certes inspirée d'Avicenne. Ici, notre auteur cite l'épître sur l'amour attribuée à Avicenne. On ne disputera pas savoir si elle est d'Avicenne ou non. En tout cas, elle est citée comme étant du Cheikh El Raïs d'Avicenne. Et d'autre part, inspirée d'Ibn Arabi. Dieu établit, dit-il, en chaque existant, qu'il soit un intellect, une âme ou une matière corporelle sensible, une perfection. Et il implante en son essence un amour pour cette perfection, un désir de l'obtenir et un mouvement pour accomplir son désir. On a donc un amour naturellement implanté dans l'existant pour sa propre perfection, qui est le degré hiérarchique ultérieur, postérieure et supérieure. Et cet amour engendre un désir, et le désir engendre le mouvement. Il y a cependant une distinction au sein de l'existant, les intellects séparés étant purement immatériels et étant parfaits en leur genre, sont absolument en acte. Ils sont donc essentiellement amoureux et de leurs principes, bien sûr, ils sont amoureux de Dieu, mais ils sont sans désir et sans mouvement. Le modèle de l'amour intellectuel est cet amour des intellects, pur amour, dépourvu de désir et dépourvu de tout mouvement. C'est évidemment le modèle suprême du perfectionnement et le sage, le savant, vise à acquérir même très peu de cet amour intellectuel. C'est évidemment le propre de l'intellect contemplatif du prophète ou de l'imam. Mais au-dessous, tous les autres existants sont déterminés à avoir, outre un amour, un désir et par conséquent un mouvement. Réciproquement, aucun existant n'est privé d'une part de l'amour divin et donc de la providence divine, ou réciproquement, nul existant n'échappe à la providence divine et donc n'échappe, si j'ose dire, n'est exempt de l'amour divin. Par l'effet de la providence, chacun aime l'existence. Il y a cette idée souvent méditée par notre auteur qui est que la marque de la création divine et au fond la meilleure preuve de l'existence de Dieu et de son rôle dans la souveraineté universelle qu'il exerce sur toute chose, c'est que chacun aime vivre. Nul n'aime ne pas exister. L'amour de l'être est l'essence même de l'amour, et cela précisément parce que l'être est amour. Comme l'être est foncièrement amour, il est naturel que l'essence de l'amour soit en chaque existant l'amour de son propre être. Chacun a de l'aversion envers le néant, et donc providence et amour divin sont en chaque étant la cause de sa persévérance dans l'être et dans la quête de sa perfection propre. Voilà pourquoi, dit-il, et là il suit à la fois Ibn Arabi et Avicenne, l'amour s'épanche dans tous les existants. Le désir s'épanche dans les âmes et dans les natures corporelles. Mola Sadra s'émancipe cependant d'Aristote et d'Avicenne à partir d'une doctrine qu'il emprunte pour le coup à Ibn Arabi, mais qu'il a transformée à son propre compte, la doctrine de l'unité de l'être. Je cite, « La vie court, circule dans tous les existants parce que l'être s'écoule en eux. » Voilà. L'amour et le désir sont consubstantiels à l'être parce que, selon Mulla Sadra, l'être est fluide. Il n'y a pas de distinction entre l'être et le devenir. Le devenir est certes de l'être en acte, tel qu'il est encore en puissance. Mais par essence, on doit poser la fluidité de l'être. Tout en étant une réalité unique, Dieu, identique à sa science, à sa puissance et à sa vie, ce qui conduit à concevoir, et tel est le lien entre providence et amour, que Dieu est fluide. Dieu n'est pas un étant figé, déterminé et fini, Dieu est foncièrement fluide. Ce n'est pas pour rien que toute la théologie de notre auteur s'achève par 150 pages sur la notion de la fluidité, qui est finalement le sommet de sa théologie. Il est évident que le mouvement intrasubstantiel de toutes les choses n'est rien d'autre que la trace, le vestige de la fluidité même de Dieu. C'est pourquoi, selon les disciples d'Ibn Arabi, nous dit Mulla Sadra, l'univers est vivant. Tout ce qui connaît et agit, par quelque sorte que ce soit, de connaissance et d'action, exprime l'amour divin et possède la vie. Or, il est inconcevable qu'un existant n'est aucune connaissance et aucune activité. Donc l'univers vit et aime et désire. Il emprunte vraiment à Ibn Arabi cette idée qui peut nous paraître tout à fait saugrenue, que l'existence va de pair avec la vie et la conscience. C'est une idée qu'on a en Occident chez Leibniz. Bon, ça n'est pas très non plus aberrant. Vous avez cette idée chez Leibniz, qu'exister et savoir, c'est la même chose, même de manière infinitésimale, et que donc le moindre grain de poussière a vie, connaissance et existence. Mais cette idée, et comme par hasard, Leibniz est un penseur de la Providence, cette idée est évidemment fondamentale pour un Ibn Arabi, parce que ça signifie qu'il n'y a rien dans l'univers qui ne soit doté d'amour et de désir, parce qu'il n'y a rien qui soit privé de connaissance et d'activité. Mais la raison la plus profonde de ce mouvement essentiel de l'être, et qui est aussi le mouvement essentiel de l'amour, se trouve dans la définition suprême de Dieu. Dieu est certes l'être nécessaire par soi, mais voici ce qu'écrit Molla Sadra, alors qu'il a étudié les attributs majeurs, les attributs essentiels que nous avons énumérés pour certains. L'amour est son essence même. Le Reich ein Dati. Oui, très surprenant. Alors, il faudrait évidemment détailler l'effet de surprise en question. Bon, nous avons un penseur chiïte, mais dont vous voyez avec toute la dette qu'il a envers le soufisme sunnite, encore que nous savons qu'Ibn Arabi était très probablement sunnite, je ne suis pas sûr que Molla Sadra le sache ou y consente. Il y a une manière de lire Ibn Arabi qui consiste un peu à le capturer, sans parfois le nommer, et d'autant plus heureux de le capturer, de le capter et de l'adopter, que les intransigeants docteurs et fuqaha chiites condamnent, bien entendu, notre malheureux Ibn Arabi. Mais l'amour et son essence même dépassent Ibn Arabi. C'est d'ailleurs, on trouve ça bien sûr chez Ibn Arabi, mais c'est une proposition qui vient d'Al-Hallaj. Et nous avons d'autres attestations chez Molla Sadra de l'influence des, et il va encore le citer sous peu ici sur l'amour, du grand mystique El-Hussein ibn Mansour El-Hallaj, celui que Louis Massignon appelait le martyr mystique de l'islam. L'amour est son essence même. Dans cette proposition radicale, et donc inspirée d'Al-Hallaj, Dieu est amant de soi-même, aimé par soi-même et par ce qui est autre que son essence. C'est pourquoi cet amour, qui est l'essence divine elle-même, irrigue les intellects, les intelligences, toutes les essences intellectives. À la différence de Dieu, selon Molla Sadra, les intelligences aiment Dieu, mais elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Dieu s'aime, les intelligences non, les âmes non plus, les corps encore moins. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est ronchon et personne ne s'aime. Il y a un renversement étonnant de ce qu'on trouve par exemple chez saint Augustin. Encore que l'on pourrait montrer que l'amour propre, critiqué par saint Augustin et distingué de l'amour de soi, correspond tout à fait à ce non-amour que les créatures ont pour elles-mêmes. C'est-à-dire cette insatisfaction, ce sentiment du manque que chacun ressent pour soi et envers soi. Seul Dieu est content de soi, et le contentement est un attribut divin. C'est pourquoi l'amour de soi est le modèle de tout véritable amour. Or, que reste-t-il aux créatures si elles ne s'aiment pas tandis qu'elles aiment Dieu ? Eh bien, il leur reste à s'évanouir. Et nous retrouvons ici, ce qui a fait tout à l'heure poser plusieurs questions, le thème est cité à propos de Rusbehan, l'effacement, le fana, l'effacement. l'extinction, l'évanouissement, tout être créé, et d'abord les intelligences, s'évanouit dans l'amour que cet être créé a pour Dieu. Donc, tout authentique amour est anéantissement. Autre thème halladjien. De même que la lumière de leur être, je cite, s'évanouit dans la lumière de l'un. Tel est donc le modèle de l'amour, l'amant s'efface dans la lumière de l'aimé. Quant aux âmes des sphères célestes, elles ont un amour accompagné d'un désir de conjonction. Elles ont donc un plaisir, mais aussi une douleur, celle de l'absence de leur aimé. Ce que Mola Sadra, suivant Avicenne, nomme une douleur plaisante. Le sage, qui est d'un degré inférieur à l'imam ou au prophète, ressemble aux sphères célestes dans leur désir de leurs aimés spirituels. Au fond, la vie du sage, c'est une douleur plaisante, celle d'un amour accompagné d'un désir non encore assouvi d'unification. L'amour est donc bien le moteur du mouvement providentiel et essentiel de tous les existants, et ceci du plus bas jusqu'au plus haut. Au plus haut, l'essence de Dieu est amour, au plus bas, l'essence de la matière, écrit Mola Sadra, c'est le désir. Donc tout l'univers se meut selon la liquidité de l'être, la fluidité de l'être, entre au sommet la perfection, l'amour, en bas l'imperfection, le désir. Voilà le schème, si vous voulez. Alors, de quoi l'amour est-il amour? Quels sont les objets de l'amour? L'essentiel de la doctrine de la réception de l'amour est la reprise de la doctrine de la théophanie. L'objet de l'amour, c'est la réception de la théophanie. Le parfait amour est donc la réception de la théophanie réelle, la manifestation de la réalité divine, sans aucune médiation. Comme un miroir, écrit-il, en lequel se révèle la forme de la personne recherchée sans la médiation d'un autre miroir. Cela, c'est le privilège du premier étant émané de Dieu, causé par Dieu, l'intellect universel. Les autres étants reçoivent cette épiphanie divine par l'intermédiaire de miroirs multiples. Mais même si les miroirs se multiplient, les reflets de la divinité se manifestant dans de multiples existants, c'est toujours l'unique qui se réfléchit. Donc dans les théophanies multiples et variées et hiérarchisées, seule la personne de Dieu se donne à voir. Les miroirs ne sont rien par eux-mêmes. La réception de la théophanie dans de multiples miroirs qui la diffractent est toujours la réception de la manifestation de l'unique. Mais cependant, la multiplication des miroirs qui diffractent la théophanie provoque des effets malheureux. 1. L'occultation de la forme du divin, et 2. La médiocrité de la réception et de l'apparition. Cependant, le réceptacle a la capacité, ou plutôt moins le réceptacle, a de capacité à recevoir les vestiges de l'éclat de la lumière divine, comme dit Mola Sadra, moins les existants obtiennent la réception de la théophanie. Ce qui est plus proche de Dieu est illuminé plus fortement et plus parfaitement que ce qui est plus lointain. Voilà pourquoi se rapprocher de Dieu et l'objet du désir, afin que l'amour reçoive une satisfaction plus ample et plus intense. Voyons maintenant, et pour finir, quelques exemples des degrés divers de l'amour et de l'affection hiérarchisés et exprimant la providence. Alors là, nous allons quitter les hauteurs de la métaphysique pour entrer dans des considérations auxquelles souvent on ne songe pas. Puisque l'amour est en tout et que tout est une sorte de rituel amoureux tendu vers Dieu. Et puisque l'amour est providentiel, eh bien, les amours diverses ont un fondement providentiel. Il n'y a pas d'amour malheureux. Voilà comment on pourrait dire la chose. Il n'y a pas d'amour misérable et il n'y a pas d'amour indigne. Tout amour, dans leur pluralité, et tout désir est voulu par la Providence et exprime sa bonté. Exemple. 1. L'amour des âmes animales pour l'acte sexuel et l'accouplement. Bon, les âmes animales ont un amour bestial, mais il est un amour providentiel. Deuxièmement, l'amour des chefs, des dirigeants pour leur domination sociale et politique. Le désir avide de rechercher des positions dominantes, de rechercher une distinction honorifique, l'ambition sociale, eh bien tout cela exprime la sagesse divine, car ce désir traduit la recherche que l'âme effectue, recherche de sa maîtrise sur ses facultés qui lui sont assujetties. De même que notre âme intellective assujettit en nous l'âme animale et l'âme végétative, ou l'âme végétale et toutes leurs facultés, de même fait le chef. Et donc avoir l'ambition d'être un chef, c'est l'équivalent d'avoir l'ambition d'être un intelligent. Cet amour du pouvoir souverain est providentiel pour l'ordre social, nous explique Molla Sadra. Si l'amour d'avoir un haut rang, l'ambition du pouvoir, l'ambition de s'élever, n'était pas implanté dans la nature de nos âmes, la plupart des hommes n'aimeraient pas le fait qu'un chef soit obéi par son peuple, écrit-il. Donc ce serait l'anarchie. Je vous disais bien que c'était un ordre, un univers de l'ordre. Bon, selon l'ordre, il est bon que nous tous nous obéissions à nos dirigeants parce que nous trouvons tout à fait normal de leur obéir. Et nous trouvons tout à fait normal qu'un chef soit obéi par son peuple. Mais pour cela, encore faut-il que nous ayons en nous l'ambition de nous élever. Si on n'a pas l'ambition de progresser et de s'élever, on n'obéira pas. Finement remarqué. Ces considérations sociales se complètent par des considérations sur l'amour des commerçants et des financiers. Vous voyez, là, on retombe de la métaphysique, hein. Cet amour a pour objet l'acquisition des richesses et ils ont un désir avide d'accumuler leurs capitaux après les avoir amassés. Voilà un amour. Eh bien, il est implanté en leur nature. Et il est excellent, cet amour. Il est providentiel, il est divin. Parce que les puissants sont comme les causes et les moins puissants ou les pas puissants du tout sont comme les effets. Dans l'univers hiérarchisé d'un Molla Sadra, la cause détermine l'effet et l'enveloppe. Tout effet est enveloppé dans sa cause. Et les grades élevés, les pouvoirs supérieurs, sont les causes des pouvoirs inférieurs. Pour parler clair, si le pauvre est moins pauvre qu'il n'est, c'est grâce aux riches qu'il le pourrait être, en tout cas. C'est grâce aux riches. C'est grâce aux princes que les peuples vivent, bien ou mal, mais en tout cas ils vivent. C'est grâce à Dieu que la création subsiste. C'est grâce aux riches que les pauvres subsistent. Bref, c'est ceux qui sont en haut qui font tourner la machine et pas ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas profitent du mouvement instauré par ceux qui sont en haut. Ça change, hein ? Donc les puissants sont comme la cause, et ceux qui leur sont inférieurs sont leurs causés. De là que l'amour des uns envers les autres, bien qu'ils soient différents, distincts l'un de l'autre, concourt à l'harmonie sociale. On le voit chez les pères et les mères envers les enfants, chez les grands envers les petits, chez les forts envers les faibles, en raison du puissant besoin que les faibles ont de l'assistance des forts. Bref, il règne une sympathie universelle dans la société qui est due au fait que chaque causée court par son désir et son amour derrière sa cause. C'est pourquoi, dit-il, le pauvre s'attache au riche. Il aime celui qui est riche, tandis que celui qui est riche a de la compassion pour le pauvre et lui offre gracieusement ce qu'il a en trop. Voilà. C'est le modèle de la cité idéale. C'est très sérieux, c'est très beau. Le modèle, il sait parfaitement ce qui se passe à Ispahan en son temps. Mais c'est ça le modèle de la cité des âmes pures, selon la providence divine. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu instaure. Après ces amours bénéfiques, ceux des financiers, ceux des marchands, ceux des trafiquants, ceux des... bref, de tous ces braves gens, on en vient à un amour un peu supérieur, l'amour des savants et des sages, amour pour la connaissance. Les savants aiment extraire les connaissances, les rédiger dans des livres, les publier, dévoiler leurs mystères, les enseigner aux étudiants et à ceux qui y sont prédisposés. Eh bien, cet amour est providentiel, parce qu'il produit, très beau ça, la reviviscence des âmes, leur résurrection. Voilà, la fonction pédagogique du savant et la fonction de la publication des livres, c'est la résurrection, parce que l'ignorance est la mort véritable et que lire des livres ou écouter le savant, c'est sortir de la tombe, dit-il, de l'oubli et de la mort pour revivre. C'est donc une image et même peut-être la réalité de la résurrection. On pourrait continuer, il y a l'amour des artisans, bref, chacun a un amour à sa place qui lui permet d'obtenir une théophanie qui se diffracte pour lui selon l'angle où il se place. J'en viens à un dernier aspect par lequel je conclurai et qui est un aspect qui m'a beaucoup troublé, non pas parce que je suis spécialement bégueul, mais parce que je ne m'attendais pas à le trouver chez Moulla Sadra, et qui est l'éloge providentiel ou du caractère providentiel de l'amour des adolescents. Notre auteur s'attaque en effet à cette question, que faut-il penser de l'amour ardent, Aishq, que les beaux adolescents suscitent. Alors il commence par exposer les opinions des sages sur cet amour. Il y a 5 opinions que l'on peut retrouver dans la lecture, dans la littérature de la sagesse. 1. Cet amour est une dépravation. 2. Au contraire, il est une vertu de l'âme. Et celui qui est amoureux des jeunes adolescents est d'un rang élevé. 3. Position, il n'y a rien à en dire. Donc celui-là, contre, pour et pas d'opinion. 4. Il s'agit d'une maladie de l'âme. 5. Cet amour est une folie divine. Junun ilahi, ce qui est exactement la traduction arabe de la mania platonicienne. Le problème se résume donc ainsi pour Moulla Sadra. Cet amour pour les adolescents est-il louable ou condamnable? La réponse de Moulla Sadra, c'est que l'amour des jeunes gens est louable et qu'il est providentiel. Il le définit ainsi, cet amour, c'est l'intense plaisir pris à la beauté d'une forme adorable, c'est l'amour exagéré de celui en qui se trouve un caractère délicat, des membres harmonieux, la grâce de la constitution physique. Voilà donc un amour qui a pour objet les formes corporelles, dites adorables, et un caractère, donc caractère spirituel, délicat. Constitution physique, constitution morale. Alors, il va justifier cet amour de plusieurs manières. Premièrement, cet amour existe dans les âmes de la plupart des nations, sans hypocrisie et dissimulation. Cet amour fait partie, dit-il, des usages divins auxquels sont subordonnés par bienfaits et sagesse. Par conséquent, inévitablement, il est recommandable et louable, il fait partie des principes d'excellence en vue de nobles fins. Alors, quelles sont donc les fins de l'amour porté aux jeunes gens. On va voir comment on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure Hallaj. Alors on trouve ici en effet l'allusion aux doctrines de l'amour subtil. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin. Je me contente ici de finir mon exposé en exposant les propos de Moulla Sadra. Il y a un partage entre les âmes subtiles et cultivées et les âmes grossières. C'est le partage que l'on retrouve entre l'amour spirituel et l'amour physique. L'amour physique est celui auquel se limitent les natures grossières. L'amour psychique, comme il dit, qui est l'amour spirituel, est propre aux âmes subtiles. L'amour spirituel est celui que le maître éprouve pour l'adolescent, tandis que l'amour physique a pour effet le désir animal, dont l'exemple majeur est fourni par l'amour hétérosexuel. On est donc légitimement amené à conclure que pour Moulla Sadra, l'amour spirituel, c'est l'amour pédérastique, au sens grec du terme, tandis que l'amour hétérosexuel, il va le montrer, est un amour essentiellement adopté, sans autre forme de procès, par les peuples grossiers. Car ces partages ont une inscription anthropologique, alors que notre auteur emprunte à toute une littérature antérieure, je n'insiste pas, on a ça chez les géographes, on a ça bon, en permanence, il n'invente rien. La plupart des nations qui possèdent un enseignement dans les sciences et les arts, et dans la culture, les belles lettres, la dab, ou encore dans les savoirs mathématiques, sont des adeptes de l'amour spirituel et donc de l'amour pédérastique. Ce sont la Perse, l'Irak, la Syrie et l'Empire romain. Ces peuples ne sont jamais privés de cet amour délicat dont la source est le beau caractère de l'aimé. Donc on voit bien que l'aimé a une belle forme, il est beau, mais que ce qui compte, c'est le beau caractère. Ce thème platonicien emprunté probablement au recueil de textes attribués à Platon, et sur le, donc, ce qui n'est même pas la peine d'y insister. Mais en revanche, il y a les autres âmes, les âmes grossières, les cœurs corrompus, les natures brutales. Alors, je vous donne la liste des peuples caractérisés par ces misères. Les Kurdes, les Arabes, les Turcs et les Noirs. Bon, je m'empresse de dire que je ne suis pour rien dans cette énumération et que je n'adopte en rien cette anthropologie, c'est celle de notre philosophe. Mais c'est très important, parce que ça veut dire qu'il y a une véritable doctrine de la culture et une doctrine anthropologique et géographique de la culture de l'amour. On n'aime pas partout de la même façon. Ces peuples grossiers sont peuplés d'hommes qui aiment les femmes et de femmes qui aiment les hommes. Tandis que les peuples délicats, la Perse, l'Empire romain, l'Irak, la Syrie, sont peuplés d'hommes qui ont un amour chaste pour les adolescents. Et on presse de dire qu'il s'agit bien entendu de garçons, on ne parle pas des femmes chez nos auteurs. La plupart de ces brutes, en effet, s'en tiennent à l'amour des hommes pour les femmes. J'avoue que vous lisez ça, restez un peu quand même pantois. À l'amour des femmes pour les hommes, ils recherchent l'acte sexuel, voilà. Rechercher l'acte sexuel, c'est le fait des bêtes. Quelqu'un qui, dans l'amour, cherche à coucher avec son partenaire est pour le moins suspect de bestialité. Il cherche à couvrir la femelle, comme c'est le cas pour les natures des autres animaux en lesquels est implanté l'amour de l'accouplement et de la copulation. Le seul souci de ces peuples, c'est comme chez les animaux, la perpétuation de l'espèce. Tandis que les peuples délicats, cultivés, ont un amour dont la finalité est l'éducation des jeunes gens. Et pour ne pas emprunter trop de votre temps, je conclurai rapidement en donnant le raisonnement providentialiste de notre Moulla Sadra. En effet, qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce qu'éduquer les jeunes gens? C'est un beau sujet de réflexion sur la nature de l'école. Eh bien, l'éducation, d'abord, c'est une purification de l'âme, mais c'est aussi un enseignement des sciences particulières, la grammaire, la langue, l'éloquence, la géométrie, les arts, les belles lettres, les poésies, les musiques, les belles mélodies, mais aussi les récits, les paroles, les histoires étrangères, c'est-à-dire l'histoire universelle, les traditions, bref, tout ce qui peut rendre parfaite l'âme. Et c'est ainsi que l'amour des jeunes gens, cet amour pédérastique, a son origine dans la Providence. Pourquoi ? Pourquoi la Providence de Dieu joue-t-elle un rôle dans cette affaire ? Eh bien, parce qu'il y a un problème insoluble sans la Providence. Les enfants et les adolescents s'émancipent de l'éducation procurée par les parents. Il y a un moment où les parents cessent d'éduquer leurs enfants, de les élever. Et donc, puisque les parents ne peuvent plus jouer ce rôle, parce que les enfants ont grandi, ils ont besoin de maîtres et de professeurs. Et il faut, en outre, qu'ils se tournent vers les maîtres et les professeurs et leur prêtent attention avec affection et sympathie. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est en vue de cela que la Providence a créé dans les âmes de ces hommes adultes, les professeurs, un désir pour les jeunes gens, un violent amour, une prédilection envers les adolescents au beau visage, afin que ce désir les incite à les éduquer. Il explique, n'est-ce pas, un savant, un professeur, n'a aucune raison de s'occuper d'un adolescent, enfin, qui n'a aucun intérêt pour lui, il reste dans ses livres. Mais il va s'en occuper précisément parce qu'il est saisi de ce violent désir, de ce violent amour pour la beauté de l'adolescent. Alors, bref, cet amour psychique, cet amour spirituel, est donc ancré dans les cœurs tendres par opposition au cœur cruel. Alors, qu'est-ce qu'apporte cet amour spirituel et pourquoi en fait-il la doctrine? C'est un amour qui est propre à l'âme, bien sûr, qui attendrit le cœur et purifie la pensée, qui enseigne à l'âme la perception des réalités nobles, les réalités intelligibles. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres, au début, gouvernent leurs disciples par l'amour. Il va reprendre point par point la doctrine platonicienne de la paideia. Les maîtres enseignent par l'amour. L'amour psychique, l'amour spirituel, est un amour chaste, écrit-il. Il est situé dans les motifs de l'éducation elle-même, à une place inférieure, mais essentielle à tout commencement d'éducation qui conduit vers l'intelligible. Et c'est à cette occasion que Moulla Sadra cite deux traditions fréquemment citées dans la littérature du soufisme. Dieu est beau et il aime la beauté. Celui qui aime est chaste, garde le secret et meurt en martyr. Bon, on est dans toute, hein, vous voyez, la reprise de toute cette littérature sur l'amour courtois par chez notre auteur. Alors, il répond à la question « L'amour est-il une maladie de l'âme, une folie divine ?» Eh bien, il répond oui et non, ou plutôt c'est une simple métaphore. En effet, la folie divine, dont on accuse l'amour d'avoir tous les traits, d'avoir tous les symptômes, se traduit par la langueur, les palpitations cardiaques, les yeux creux, les profonds soupirs. Bon, alors c'est vrai que l'amoureux ressemble souvent à ça. Mais de tels symptômes étant les signes d'une corruption du tempérament traduisent la mélancolie, la domination de la bile noire. Et selon les auteurs qui parlent de l'amour comme d'une folie divine, il faut comprendre que l'amour serait une forme de mélancolie. Or, il n'en est rien. Dans l'amour, les causes de la des troubles, des symptômes, sont psychiques et ont des effets dans le corps, tandis que dans la mélancolie, les causes sont corporelles et ont des effets dans l'âme. L'expression « folie divine » a donc une autre origine, selon Bollasadra. L'origine en question, c'est l'impuissance où les hommes se trouvent de procéder à une médecine de l'amour, à une médecine des amants. Lorsque les amants sont dans l'amour et la détresse, nous ne savons que faire pour les soigner. Le seul remède, dit-il, serait celui que Dieu octroie en réponse aux incantations et aux prières. Bon, donc en effet, lorsque le type a la maladie d'amour, il n'y a plus qu'à prier, et à prier Dieu. Mais, dit-il, il faut imiter en cela les anciens, et alors il cite un texte, manifestement tout ça est emprunté, bien sûr, qui se réfère au paganisme grec, c'est-à-dire aux médecins et aux sages grecs, lorsque les Grecs étaient incapables de découvrir la thérapie nécessaire à un malade, ont porté le patient dans un temple où ils pratiquaient leur culte, ils ordonnaient des prières et des offrandes, et alors on attendait que les dieux fassent le reste. Eh bien, il n'y a plus que ça à faire avec l'homme malade d'amour. La maladie d'amour ne se guérit pas par des remèdes humains. Enfin, cet amour qu'on a vu pour les jeunes gens nous conduit, notre auteur, à bien montrer la finalité ultime de tout amour et de la découvrir ici dans l'amour le plus dépourvu de sacralité apparente, l'amour profane par excellence, qui est l'amour des beaux corps. C'est le désir d'unification. L'unification ne faire qu'un. Alors, de quelle unification s'agit-il ? Il ne peut s'agir, dans l'amour courtois, de l'unification de deux corps. Sans doute, les corps de l'amant et de l'aimé peuvent-ils se conjoindre ? Mais seulement dans l'inconscience, dans un état d'insouciance, de distraction. Il ne s'agit pas de cela dans l'amour psychique, car l'amour fait ici partie des attributs des âmes et non pas des corps. La véritable signification du faire un, de l'unification, c'est que l'amant et l'aimé font un comme l'intellect et l'intelligé. Au fond, dans l'amour, il y a l'imitation de l'intelligence. C'est une idée très, très belle et très puissante. Et dans ce désir de fusion unitive, il y a l'image amoureuse du processus par lequel on devient soi-même un intellect agent et on fusionne avec l'intelligible. Et enfin, dans ce désir d'unification, Mollasadra reconnaît les traces de ce qu'il appelle les récits des amants éperdus et surtout l'exemple fameux du Majnoun, le fou d'amour. Ainsi, décrit-il, a-t-on rapporté que Majnoun al-Amiri, étant plongé dans l'amour, son aimé se présenta et dit « Oh Majnoun, c'est moi, Leïla ». Il ne lui prêta pas attention et dit « Pour moi, loin de toi, il y a plénitude par amour de toi ». Parce que, écrit Mollasadra, l'amour véritable, c'est la forme qui est l'aimé par essence et non pas la réalité extérieure. Voilà donc un certain nombre d'éléments qui nous ont fait passer de l'amour, je dis ça en conclusion, comme essence même de Dieu et essence d'un être, d'un acte d'exister qui est foncièrement fluide et visant toujours une perfection supérieure, bref, un amour qui ressort de la théologie, qui appartient au domaine de la théologie et de la métaphysique, voire de la cosmologie et du rituel cosmique de l'existant autour de Dieu, à un amour profane qui ne s'en distingue pas. Entre amour divin et amour humain, il n'y a pas de différence, si ce n'est de degré. Et il est toujours possible de passer de l'un à l'autre. Mais ici, la seule réserve qu'apporte notre auteur à l'amour humain, c'est celle qui naît de la distinction entre bestialité et âme intellective. La perfection de l'amour, c'est l'union de l'intellect et de l'intelligible, c'est donc l'union de deux intelligences ou de deux âmes, et ça n'a rien à voir avec l'imperfection de l'union des corps. Et je conclurai en vous lisant cette paraphrase du Banquet de Platon que je trouve chez Moulla Sadra, car c'est proprement une paraphrase du Banquet. « Lorsqu'échoua à l'amant ce qu'il désirait, la proximité de son aimé, la présence avec lui dans l'assemblée des amis, lorsque se produit pour l'amant l'objet de son désir, il réclame encore bien plus que cela. Il désire douceur et accouplement avec l'aimé, sans la présence de quiconque. Lorsque cela devient facile, l'assemblée de tous les autres s'étant vidée, il désire embrasser et couvrir de baisers son aimé. Et si cela est rendu possible, il désire se glisser sous une couverture unique. » C'est le discours d'Alcibiade dans le Banquet. « Et couvrir de baisers son aimé. Et si cela... voilà. Et adhérer par tous ses membres au corps de l'aimé autant de fois qu'il faudra. Malgré tout cela, le désir demeure en son état, la brûlure de l'âme reste comme elle était, ou plutôt le désir et l'excitation augmentent. Voilà pourquoi il y a imperfection foncière de l'amour physique, non pas parce qu'il est immoral, non pas parce qu'il est condamné par la loi ou par la charia, mais tout simplement parce qu'il est inassouvi. Tandis que l'amour spirituel, lui, est un amour d'assouvissement. Je vous remercie.